Vous écoutez France Culture. La Grande Table, c'est une émission documentée aujourd'hui par Raphaël Bourgois et Ségolène Darny, coordonnée par Brigitte Masson et Corinne Amard. Perret Legras est à la réalisation, Ariane Herbet à la prise de son. Au sommaire de ce jeudi 13 septembre, conversation dans un instant, ou peut-être devrais-je dire débat, sur le projet du ministre de l'Éducation nationale Vincent Peillon, projet d'instaurer des cours de morale laïque à l'école. L'historien Christophe Prochasson, le philosophe Ruven Augien et Catherine Clément ont déjà l'eau à la bouche, rien qu'à l'idée que je dise le mot débat. En deuxième partie, deux romanciers s'assieront autour de la table. L'un est un Français expatrié à Barcelone et fasciné par les pays arabes. Son dernier roman s'intitule « Rue des voleurs ». Il a pour héros un jeune Marocain de Tanger en quête de liberté et d'Europe sur fond de révolutions arabes. L'autre est Marocain, mais il a choisi de vivre en France il y a quelques années. Son livre s'appelle « Infidèle ». Il fait parler un jeune garçon, fils d'une prostituée de Salé. Il les suit jusqu'au Caire et Bruxelles. Ces deux romanciers se nomment Mathias Sénard et Abdelataya. Ils seront en studio à partir de 13h après la chronique du médiateur. The sense of sound, right? Now you know how we play, we're going to give you certain sounds to identify, and now...
Il y a toute une histoire qui est d'ailleurs très méconnue. Pouvoir spirituel, ça veut dire qu'effectivement l'école, elle doit certainement préparer des travailleurs, former des citoyens, mais elle s'adresse aux esprits, l'esprit public d'un peuple, comme on le disait depuis Condorcet. Il y a des tas de gens qui veulent formater nos esprits, nous dire que la concurrence, l'égoïsme, l'argent, ça, ce sont des valeurs formidables. Et puis, il y a l'école qui a ses responsabilités, qui est d'enseigner un certain nombre de valeurs qui permettent de vivre ensemble, qui font le socle. Moi, je veux une école qui fabrique du commun. Je veux une école qui soit capable, entre tous les enfants de France, de rassembler autour d'un certain nombre de valeurs que nous connaissons d'ailleurs. Hein. C'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la justice. Et donc tout cela, ça s'apprend. Ça s'apprend, y compris le respect des autres, y compris le refus des orthodoxies, y compris l'esprit critique, y compris la capacité à définir les devoirs envers soi ou les devoirs envers les autres. Souvenez-vous de la phrase qui avait tellement choqué de l'ancien président de la République. Il avait dit de façon tout à fait ordinaire, « Eh bien écoutez, je pense que pour enseigner le sens de la vie, le curé ou le pasteur est supérieur à l'instituteur. » Moi, je ne pense qu'il n'y a pas de supériorité. Je respecte le pasteur et le curé, ils le feront dans l'ordre privé. Mais je pense que l'école et une démocratie doit enseigner ses propres valeurs et que la démocratie et la République et la France, elle a quelque chose à dire à ses enfants sur le sens de la vie.
Vincent Peillon sur France Inter le 3 septembre au micro de Patrick Cohen. Une précision qui fait suite à l'entretien deux jours plus tôt dans le journal du dimanche où le ministre de l'Éducation nationale précisait l'annonce de la mise en place en juillet d'une mission sur la morale laïque. Je veux qu'on enseigne la morale laïque car le redressement de la France doit aussi être un redressement moral, a affirmé Vincent Peillon, qui, il faut le rappeler, était l'auteur en 2010, en tant que philosophe, d'un essai sur Ferdinand Buisson, père de la laïcité sous la Troisième République. Alors parce que le débat est passionnant et très important, parce que Vincent Peillon a ouvert comme une boîte de Pandore dans laquelle droite comme gauche se sont engouffrés et parce que les prises de position ont été tranchées, nous avons voulu ouvrir ce débat aujourd'hui à la Grande Table, profitant aussi de la réédition, c'est sans doute la 6e édition aux éditions des Équateurs, du fameux livre de morale des écoles primaires de Louis Boyer qui date de 1895. Nous avons choisi comme titre de ce débat « La morale laïque peut-elle échapper à l'ordre moral ?» et pour en parler, invité trois complices de la Grande Table, Christophe Prochasson, Catherine Clément et Ruven Augien. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Caroline.
Et je laisse le soin à l'historien Christophe Prochasson de présenter, d'introduire ce sujet.
Alors vous disiez Caroline à l'instant que nous étions mis en appétit par l'idée d'un débat, mais que ce serait une conversation sans débat, au moins pour vos éditeurs. Alors à l'inverse de Rousseau, ne commençons pas par écarter tous les faits avant de raisonner ou de controverser. Vous l'avez déjà un petit peu rappelé, mais je pense qu'il faut être précis sur ce problème. Le 2 septembre dernier, en effet, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, a exposé dans le journal du dimanche ses vues sur la mission qu'il s'assigne. Alors l'un des points à vrai dire, le seul point qui a véritablement enflammé les uns et les autres, et le souhait qu'il manifestait dans cette interview, et là les mots sont importants, de voir la mise en place, je le cite, d'un enseignement qui inculquerait aux élèves des notions de morale universelle fondées sur les idées d'humanité et de raison. Bon, pas de quoi fouetter un chat, sauf peut-être à considérer que l'État n'aurait pas à se mêler de l'éducation morale de ses citoyens, ce qui est déjà un premier point de discussion. On pourrait d'ailleurs ajouter à ce premier point de discussion une question de savoir s'il a les moyens véritablement d'inculquer, quelle est en quelque sorte son efficacité pédagogique. À vrai dire, comme toujours en politique, ce sont les mots, les formules qui pèsent, et ces propos que je viens de citer sont moins ceux-là qui ont choqué une partie de la gauche et fait ricaner, il faut bien dire, l'ensemble de la droite, que les propos suivants. Le redressement de la France doit être un redressement matériel, mais aussi intellectuel et moral. Alors, face à une formule dont on pourra peut-être regretter un peu l'empreinte vaguement passéiste, encore que, on ne peut, je crois, partager, en tout cas pas moi, les attaques que je dirais indignes d'un Luc Chatel, rapprochant la proposition de Peillon d'une autre du maréchal Pétain. Elles étaient tellement indignes qu'il s'en est d'ailleurs rendu compte et s'en est excusé, mais que je ne partagerai pas non plus ce que j'appellerais un peu de façon provocante, les vapeurs relativistes d'une partie de la gauche. Voilà mon point de vue. Et le second serait pour resituer peut-être la démarche de Peillon lui-même. Il faut rappeler d'où vient Peillon, comme on le disait autrefois, non seulement politiquement, mais philosophiquement. Vincent Peillon, ce qui est rare en politique, est un ministre, mais aussi un philosophe qui a une œuvre et qui a, c'est suffisamment rare pour le noter, développé tout un projet de philosophie politique, non seulement dans des livres qui ont marqué.
Je citais celui sur Ferdinand Buisson,
celui, le dernier Ferdinand Buisson, mais aussi avant un livre très important sur Jaurès, une approche philosophique de Jaurès. Et ceci est accompagné aussi de la direction d'une collection, un petit éditeur de Gironde, le bord de l'eau, de textes dans lequel il met au jour toute une pensée de gauche, empreinte de morale. Et ça, c'est peut-être un point sur lequel je vais conclure cette introduction, qui est qu'il me paraît assez curieux qu'il soit aujourd'hui devenu très difficile, à gauche en tout cas, de parler de morale. C'est un peu oublié trop vite que tout un courant de pensée politique situé à gauche, depuis la fin du XIXe siècle, et on pourrait d'ailleurs la conduire jusqu'à Mendès France, a fait de la morale un point essentiel dans non seulement le moyen de transformer la société, mais aussi un objectif à atteindre dans de l'action politique.
C'est vrai que quand on entend les réactions, quand on a suivi un peu les réactions qui se sont parfois révélées assez virulentes, Ruben Augien, on a le sentiment que c'est moins le terme de laïque accolé à morale que celui de morale qui a provoqué en tous les cas la réaction, sinon la virulence des réactions. Ruben Augien, pourquoi le mot de morale fait-il si peur ?
Je pense que quand on essaye d'envisager cette question, quand on s'interroge sur ce problème, il y a deux questions philosophiques qui viennent à l'esprit. D'abord, c'est celle de savoir quelle morale. Est-ce que c'est celle qui est développée dans le livre dont vous parliez tout à l'heure, le livre de morale, qui met l'accent sur le patriotisme, les devoirs envers les autres, les devoirs envers la nation ? La complémentarité, pour reprendre un terme qui a été utilisé récemment pour parler des rapports entre les hommes et les femmes, avec la soumission de la femme à l'homme, le respect de la hiérarchie, les devoirs envers soi-même, des devoirs comme la propreté, ceux qui sont indiqués, l'hygiène, etc. Donc il faut quand même relire ce genre de livre pour avoir une certaine idée de ce que signifie quelle morale. Est-ce que c'est ça la morale que nous voulons enseigner ? Et la deuxième question qui se pose, c'est aussi pour qui ? Je ne pense pas que lorsque le ministre de l'Éducation nationale pensait à ramener les cours de morale à l'école, c'était pour civiliser les élèves d'Henri IV ou Louis le Grand. Je suppose, je dirais malheureusement, qu'il y a un arrière-plan à ce discours, et c'est celui de la description que j'appelle catastrophiste de l'école d'aujourd'hui, avec ses incivilités, sa violence, etc. Et cette idée que je trouve un peu légère de croire qu'il suffirait de ramener des cours de morale à l'école, et je répète, quelle morale, mais nous y reviendrons probablement tout à l'heure, pour essayer, si vous voulez, d'améliorer dans une certaine mesure l'école telle qu'elle a été décrite donc, aujourd'hui. Donc il y a deux problèmes. D'une
part, parce que vous dites deux choses, Ruvette. Vous dites aussi c'est un cautère sur une jambe de bois, ça ne suffirait pas pour rétablir les problèmes de l'école. Et en même temps, ce n'est pas la bonne mesure.
Enfin, ce qu'il faut dire, quelle morale alors ? C'est une question. Et l'autre, pour qui ? À qui on s'adresse ?
À tout le monde,
Le projet de Luc Châtel.
Tous les enfants de l'école.
Pour Luc Châtel, on se contentait de l'école élémentaire. Dans le projet de Vincent Peillon, il considère que c'est un projet qui est plus vaste, plus ambitieux, qui doit aller jusqu'à la terminale. Il doit y avoir des examens, il doit être noté. Donc il faut savoir, donc là, il s'adresse à tout le monde, en principe. Mais en réalité, c'est la thèse que j'essaye de défendre. Il ne s'adresse simplement que pour ce qu'on appelle les sauvageons et les barbares.
Ça, vous nous expliquerez pourquoi vous pensez ça une fois que Catherine Clermont aura donné son premier avis, si vous voulez bien, Ruven. Catherine.
Quand j'ai rejoint Jean Kelevitch en 1964 pour les travaux pratiques dans la chaire qu'il occupait, il occupait la chaire de morale. Et j'ai été maître assistant de morale pendant 15 ans. Et je ne pense pas que la chaire de morale ait disparu du paysage. Donc elle existe. C'était en tout cas, et c'est toujours, une matière d'enseignement supérieur. Jean Kelevitch avait écrit un traité des vertus. Personne, et il manifestait avec les Mao, très digne, avec son parapluie, et en faisant hop hop, et il était archi-gauchiste. Donc c'est pas parce qu'on est enseignement de morale qu'on est forcément borné et stupide. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de revenir, personnellement, ça serait de revenir à la formule kantienne de ce qu'il appelle l'impératif catégorique, parce qu'elle me paraît, cet impératif catégorique, en tout cas, sa formulation me paraît à peu près parfaite. Vous allez me dire tous les deux ce que vous en pensez. On la trouve dans la critique de la raison pure pratique et dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Alors, je lis la formule la plus claire, il y en a 4 ou 5. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours et en même temps, comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Je ne vois rien à redire sur cette règle morale-là. Elle me paraît, alors c'est Kant, mais ça a quelque chose, c'est universel, ça peut s'appliquer à tout le monde, ça permet de reconnaître l'autre, ça me paraît irréprochable.
Et d'une certaine façon, vous introduisez, vous, Catherine, une troisième question qui est le par qui. Comment enseigne-t-on la morale à la laïque, à l'école aujourd'hui, peut-être justement au cours de philosophie.
En tout cas, cette formule, elle est laïque.
Oui, il ne s'agit pas de jugement ni de jugement moral de ma part. C'est la question du par qui, c'est-à-dire dans quelle classe, par quel professeur, puisqu'ils vont être évalués, mais encore faut-il savoir qui va donner ses cours, qui va dispenser ses cours. Est-ce que vous pensez, outre la question à laquelle on va revenir, du pour qui, Ruven, que c'est au cours de philosophie de prendre en charge ces cours, puisqu'ils vont être appliqués en 2013, c'est en tout cas le souhait de Vincent Peillon. Si c'est au cours de philosophie de le faire, ça veut dire qu'il faut aussi étendre le cours de la philosophie du CP à la terminale.
C'est
encore
une autre
question. D'accord, nous avons là vraiment des questions d'une rare ampleur et il sera assez difficile de pouvoir
essayer. Je vous l'accorde.
Alors tout d'abord, je voudrais dire à Catherine Clément que personnellement, je suis en désaccord avec cette formule, qu'en effet, la formule kantienne, elle a inspiré, entre autres, ce livre de morale, qu'elle a été très, très importante. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fin de compte, cette formule, elle met exactement sur le même plan les devoirs envers autrui et les devoirs envers soi-même. Elle aboutirait à essayer de nous faire croire que le meurtre est équivalent au suicide, le mensonge aux autres et à soi-même. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur cette question des devoirs envers soi-même et donc je conteste la formule kantienne. Je le fais avec, disons, toute l'embarras qu'on peut avoir devant un tel monument, mais en tous les cas je distingue des morales minimalistes qui se contentent d'essayer de nous donner des règles pour le rapport aux autres et des morales maximalistes qui incluent non seulement les rapports aux autres mais aussi le rapport à soi-même. Lorsqu'on parle de l'hygiène, de la propreté, de bien se tenir, de cultiver ses talents, tout ce qu'on retrouve chez Kant et puis aussi évidemment la condamnation du suicide, il y a cette partie de la phrase qui me paraît bancale, qui consiste à mettre sur le même plan rapport à soi-même et rapport aux autres. Je pense que c'est déjà un choix dans la philosophie morale, un choix qu'il faudrait justifier et que je ne trouve pas justifié.
Christophe Prochasson.
Oui, je voudrais rebondir un peu sur le propos de Rvenaugien, un peu, à mon avis, inutilement polémique à l'égard de Vincent Peillon. On peut, encore une fois, comme je l'ai dit, peut-être contester quelques maladresses de formulation qui résultent des contraintes, sans doute, du jeu politique. Je ne crois pas qu'on puisse repérer chez lui une quelconque nostalgie républicaine qui le pousse à importer aujourd'hui des cours de morale tels qu'ils figurent dans le petit livre que nous présentait Caroline Brouet en commençant. Pas plus qu'il ne souhaite réduire la morale à la morale patriotique ou à l'éloge de la nation.
C'est pour ça qu'il me semble important de l'entendre au début, parce que les mots sont
importants. C'est les thèmes que vous avez mis en avant.
Alors, j'ai entendu ça aussi.
Sur quoi je voulais intervenir, c'est évidemment deux questions très importantes qui sont pour qui cette morale, et je pense que vous avez tout à fait raison de soulever cette question, et comment, pratiquement,
Comment
enseigner la morale ? Nous sommes encore dans l'incertitude, puisque Vincent Peillon n'a pas précisé les choses. Sachons seulement que la morale, alors vieille formule, mais qui pourrait être, avec un message différent, être réactualisée, au fond, traversait l'ensemble de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y avait de la morale, non seulement dans l'enseignement de la philosophie, mais il y avait aussi de la morale dans l'enseignement de l'histoire, et il y avait, ne l'oublions pas, beaucoup de morale dans l'enseignement de la littérature. D'ailleurs, le canon littéraire qui servait de base à l'enseignement républicain, au fond, était défini en fonction des vertus morales prêtées à des auteurs. Donc, moi, je ne crois pas du tout que Vincent Peillon pense à des professeurs de morale, à des agrégations de morale, comme les Français aiment tellement, concevoir des emboîtements de formation comme ça. Non, pas du tout. Je pense qu'il a sans doute l'idée, mais faudrait-il le titiller là-dessus, au fond, d'engager une réflexion critique sur la morale, sur son contenu. Alors, pour qui disiez-vous. Moi, je trouve que là encore, vous lui faites un procès d'intention, parce que on pourrait dire aussi que le propos moral le plus fort aujourd'hui vise plutôt les classes aisées. Lorsqu'on pointe, à raison d'ailleurs, j'en fais partie, l'abandon égoïste de Monsieur Bernard Arnault de son territoire pour aller payer moins d'impôts, c'est tout de même une stigmatisation morale que l'on fait là. C'est-à-dire, et d'ailleurs, sur un registre qui devrait vous déplaire, puisque on met même en cause son patriotisme. On dit, mais vous abandonnez votre patrie au nom de vos intérêts privés. Donc, je crois aussi que cette morale, elle peut viser les élèves, ou concerner en tout cas les élèves des lycées aisés, de leur faire, par exemple, passer des idées fortes qui font partie historiquement de la morale de gauche, par exemple comme l'idée de solidarité, qui est une grande idée morale qui peut être défendue, pas bêtement par des petites recettes, mais peut-être par le tableau de la mise en œuvre de cette solidarité.
Ruben.
Écoutez, je suis tout à fait d'accord et je vous remercie pour cette façon d'éclairer les projets de Vincent Peillon que nous ne connaissons pas par ailleurs. Mais en effet, il y a une différence entre s'adresser simplement donc aux nouveaux barbares, etc., pour essayer de les redresser moralement et enseigner certaines vertus de solidarité à ceux qui sont les plus riches. Espérons donc que ça aille plutôt dans ce sens-là. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque nous avons écouté tout à l'heure Vincent Peillon, il a dit deux choses qui, à mon avis, sont différentes et qui, au fond, sont la base des objections que je pourrais faire à son projet. Il disait que l'école doit pouvoir enseigner des grands principes universels ou des principes républicains comme la liberté, l'égalité et la justice, donc qui, en fin de compte, signent des rapports à autrui. Et puis aussi que la France, et c'est cette phrase qui m'a paru un peu étonnante, la France a quelque chose à dire sur le sens de la vie. Et au fond, si vous voulez, il faut faire attention, donc, comme vous le disiez, aux mots qu'on emploie. Et là, c'est quand même parler du sens de la vie, ou comme il le fait dans l'interview du journal du dimanche, que la France n'a pas simplement quelque chose à dire du point de vue de l'égalité, de l'équité, de la justice, mais aussi sur le vice et la vertu, le bien et le mal, et qu'elle doit prendre position pour une certaine conception du bien. C'est de ce point de vue que j'ai trouvé qu'il y avait une confusion, parce qu'il ne faut pas distinguer. Il faut distinguer ce qui se rapporte à la question du juste, du rapport aux autres, et ce qui se rapporte à la question du bien, c'est-à-dire du bonheur personnel, de la vie heureuse, de la vie bonne, du sens de la vie. c'est des questions complètement différentes, alors que nous pouvons arriver à un accord, à des valeurs communes, comme ils le souhaitent, sur ces questions de justice, de solidarité. Je ne vois pas comment, dans la société plurielle dans laquelle nous vivons, nous pouvons arriver à un accord sur le sens de la vie. Ça me paraît même ridicule d'avoir ce projet aujourd'hui.
Catherine.
Monsieur enseigné, quand je suis en train de réfléchir à comment j'enseignais la morale, parce que c'était vraiment un casse-tête chinois. Jean Kelevitch avait sa propre inspiration, dont tout le monde sait qu'elle était poétique et métaphysique. Moi, je faisais de l'anthropologie et de la psychanalyse pour d'un côté apprendre aux élèves, aux étudiants à se méfier d'eux-mêmes, et pour de l'autre côté leur apprendre que l'autre était devait être reconnu dans sa différence. Mais c'était l'aube de ce genre de discipline. Hein. On n'enseignait pas. Je crois que j'ai été la première à parler d'anthropologie et de psychanalyse dans le cours de morale. Par ailleurs, j'ai une journée été invitée par Maud Manoni dans sa maison de Bonneuil où elle soignait des enfants psychotiques. Elle m'a collé sur les genoux un très bel enfant psychotique. Il y avait deux interdits et deux seulement. C'était des enfants psychotiques très violents. Et il y avait deux interdits. C'est à cause de ces deux interdits que j'y pense. L'interdit de l'inceste, qui voulait dire « tu n'embrasses pas ta petite camarade, tu ne la manges pas de baiser », et l'interdit de tuer, c'est-à-dire « tu ne tues pas ta petite camarade ». Ils étaient 10 en tout. J'ai donc été obligée de laisser l'enfant que j'avais sur les genoux manger tous les mégots qu'il y avait dans un cendrier, parce que ce n'était pas dans les interdits. Et le soir, j'ai appris pourquoi il était là. Il avait tué 3 femmes, ce petit garçon de 12 ans. Et donc, l'interdit de tuer avait son sens, l'interdit de l'inceste sans doute aussi. Je pense que les violences, ça ne parle pas de violence entre soi. Donc, je pense que ces racines morales de la vie sont plus importantes que vous le croyez, cher Ruben. C'était bien, il s'agissait bien là de la vie. On avait un petit meurtrier sur les genoux, je ne l'ai su qu'après, hein, heureusement. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais ça, c'est que la morale ait quelque chose à dire sur le respect de la vie ne me paraît pas absurde.
Le sens de la vie, pas le respect de la vie.
Le respect de la vie, je suis d'accord. Je dis bien le respect de la vie.
Le respect de la vie d'autrui, je suis tout à fait d'accord. Mais dire la notion du sens de la vie n'est pas du tout la même.
Ça doit être un lapsus de Payon. Il ne peut pas avoir dit une chose aussi...
C'est ce que nous avons entendu.
Christophe Rojasson.
On ne peut qu'être d'accord avec vous, Ruvenogien, que évidemment, il ne revient pas à l'État ou à l'école, qui n'est pas tout à fait la même chose que l'État, tout de même, de donner le sens de la vie. C'est une formule, évidemment, ça fait partie de ces maladresses dont je parlais, c'est une formule malheureuse, mais dont il ne faut pas, à mon avis, s'inquiéter outre mesure.
Moi, je pense que ce qui fait que Ruvenogien, vous faites partie de ceux qui ont réagi un peu durement à la proposition de Vincent Payon, c'est précisément parce qu'on peut reconnaître à Vincent Payon de peser les mots, de connaître le sens des mots. Donc la morale laïque, ça a un sens historique pour lui, un sens philosophique pour lui. Et je pense que s'il avait par exemple utilisé le terme d'enseignement civique, d'instruction ou d'éducation, même d'enseignement civique avec ce sens critique, oui, et démocratique, peut-être les réactions auraient été moins...
Certainement, forte, à ceci près off. Que, juste un mot, à ceci près que c'est aussi un homme politique, et je pense que d'ailleurs pour lui c'est un déchirement difficile à gérer, c'est d'être à la fois un philosophe avec une exigence intellectuelle dont vous faites preuve ici, ou dont nous faisons preuve ici, et puis par ailleurs s'inscrire dans un discours politique audible. Or, nous savons malheureusement que la gauche, depuis une vingtaine d'années, a développé une nostalgie à mes yeux coupable à l'égard de cet âge d'or de la République, dans lequel elle voit, au fond, un joli temps passé où on peut puiser des recettes pour le contemporain. Et cet âge d'or fournit des références dans lesquelles, à mon avis, la gauche s'est prise les pieds et qui conduit parfois un certain nombre de ses partisans à des décalques excessifs. Mais je crois que le vrai projet de Vincent Payon, et ça, moi, là-dessus, je le soutiendrai, enfin, il n'a pas besoin de mon soutien, d'ailleurs, mais je le suivrai très volontiers, à savoir de trouver au fond des moyens de restituer non pas le sens de la vie, mais un sens du vivre ensemble qui aujourd'hui me semble être menacé par de multiples égoïsmes qui concernent toutes les classes sociales.
Oui,
j'aimerais essayer de réfléchir un peu sur le concept même de morale laïque. Je pense que pour arriver à avancer et à comprendre exactement ce qu'il signifie, il faut séparer l'idée de règles morales, comme tu ne tueras point, et l'idée de la justification des règles. Nous avons un ensemble de règles qu'on accepte tous plus ou moins, ne pas porter de faux témoignages, par exemple,
c'est
ne pas tuer des innocents.
Ça, c'est ce que... Ce sont les traces des 10 commandements.
Oui.
Et acceptons. Elles sont importantes, oui.
Mais le véritable problème philosophique n'est pas simplement de les rappeler, mais de savoir comment nous les justifions. Il y a une différence entre les justifier en disant qu'il s'agit, comme vous venez de le dire, des commandements divins, ou essayer de les justifier par la raison.
J'ai pas dit
par
divin, j'ai dit 10.
Non, mais enfin bon, l'étape de la loi n'ont pas été écrite par l'Assemblée nationale. Enfin,
Le doigt de Dieu.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, ces principes sont des principes que nous pouvons partager, même avec des personnes qui sont atteintes de pathologies graves. Nous pouvons essayer de les... Mais la question de la justification, de savoir mais pourquoi est-ce qu'on ne doit pas porter un faux témoignage, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas mentir, etc. Or, ce que la morale laïque est censée nous apporter, c'est ce qu'on voit dans tous les textes qui la présentent, c'est qu'on est, capable de justifier ces règles par des principes de la pensée critique, de la raison, de la réflexion personnelle, certainement aussi bien et peut-être mieux que par l'appel à l'autorité d'un commandement divin. Mais le paradoxe à ce moment-là, c'est qu'au fond, la morale laïque ne se contente jamais de mettre en avant la pensée critique, la réflexion, parce que dans ce cas-là, on pourrait simplement l'enseigner en philosophie générale. Ce qu'elle essaye de dire, et c'est là où je trouve qu'il y a une contradiction ou une difficulté philosophique pour Vincent Peillon et pour tous ceux qui parlent de morale laïque, c'est que cette pensée critique est supposée nous amener à justifier ces principes de morale commune. Le but, c'est de se dire, si quelqu'un réfléchit rationnellement, intelligemment, de façon critique, alors il aboutira à penser qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas mentir, etc. Et ça, nous n'avons aucune garantie, au fond. Il est tout à fait possible que la pensée critique, lorsqu'elle se développe sans aucune contrainte, nous amène, entre autres, à penser que même la pensée critique n'a pas d'importance.
C'est dommage, parce qu'on a eu un petit peu de bruit, là, à l'instant, Révanogien, qui vous ont un petit peu perturbé, mais vous avez continué le fil de votre raisonnement, et je vous en félicite, tout simplement parce que je pense qu'une classe entière est entrée dans le studio et s'est installée derrière. Je ne sais pas s'ils ont entendu toute cette conversation, mais je ne sais pas de quelle classe ils sont. Antoine Mercier, de quelle classe sont-ils?
De seconde du lycée Jean-Baptiste C.
On aurait pu, si on avait eu le temps, leur demander ce qu'ils pensaient de l'enseignement, de la morale, de la
morale. Je voudrais juste pour finir, voilà, c'est dans le livre de morale des écoles primaires, donc de 1880, je ne sais pas combien. Donc c'est un résumé spécial pour les filles, que je vais, si vous voulez bien, transformer au masculin. L'ordre est surtout une qualité essentielle pour l'homme. Un bon ménager doit être constamment préoccupé de maintenir un ordre parfait et une grande propreté dans toutes les choses des ménages. L'homme peut même, sans jamais sacrifier l'utile à l'agréable, apporter à cet ordre une certaine élégance et parer un peu de son intérieur pour le plaisir des yeux. Vous voyez que ça colle aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Merci à tous les trois. On reprendra bien sûr le fil de cette conversation à mesure que les débats vont continuer d'exister et d'alimenter nos consciences et nos esprits critiques à nous. Merci beaucoup. On se retrouve après le journal et après la chronique du médiateur. Nous serons entourés des deux écrivains, Mathias Sénard et Abdellah Taïa.